Salut, c'est Steven Jambeau. Vous écoutez l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous m'écoutez en podcast. On va parler cette semaine d'une revue française appelée America, qui, comme prévu, a tiré sa révérence après 4 ans d'existence.
RFI.
Mais d'abord, j'aimerais revenir sur un anniversaire passé totalement inaperçu ce mois-ci. Dans la newsletter Hyper Radio, proposée par Radio France, j'ai appris que c'est de janvier 2001 que date la création du principe du podcast. Alors accrochez-vous. Techniquement parlant, le podcast permet l'écoute ou le téléchargement de contenu audio par l'entremise d'un abonnement à un flux de données au format RSS. Plus simplement entre nous, le podcast, c'est la possibilité de s'abonner à vos émissions favorites pour les écouter où vous voulez, quand vous voulez, par exemple sur votre smartphone. Alors revenons au début des années 2000. On est en octobre 2000, un ancien VJ, un vidéo jockey de la chaîne musicale MTV, nommé Adam Curry, propose à l'inventeur du concept du RSS, le développeur américain Dave Weiner, d'ajouter un fichier son à ses flux de données. Et c'est ainsi qu'en janvier 2001, alors que George W. Bush s'apprêtait à entrer à la Maison Blanche, que le concept du podcasting, de la baladodiffusion comme on dit au Québec, était né. Ça fait donc précisément 20 ans. Et pour l'anecdote, pour tester son invention et montrer que ses bidouilles de code informatique fonctionnaient, le développeur Dave Weiner a choisi un morceau du groupe américain Grateful Dead, US Blues.
Sam, how do you do? Give me 5. I'm still alive. Ain't no luck. I learned to duck. Check my pulse. It don't change. Stay 72. Shine or rain, wave the flag, pop the bag, bark the boat, skin the goat.
Rares sont les aventures de presse dont la fin a été décidée dès le lancement. C'est une des raisons pour lesquelles l'aventure de la revue America est atypique et que j'ai décidé d'y consacrer une émission. America, ce sont 16 numéros parus en 4 ans. 500 000 d'exemplaires vendus au total. Mais America, c'est fini. Ce trimestriel de collection, printemps, été, automne, hiver, consacré à l'Amérique de Donald Trump, était un MOOC, mélange hybride entre un magazine et un livre. Co-créé au printemps 2017 par Éric Fotorino, le fondateur d'un hebdomadaire français de référence, Le 1, et François Bunel, journaliste littéraire français d'exception, notamment aux commandes de La Grande Librairie, une émission de télé de service public. Le dernier numéro d'America, le 16e donc, est paru le 20 janvier, jour de l'investiture du nouveau président américain Joe Biden. Il a pour titre, à la une, Hello, Goodbye. Pour raconter l'aventure d'America, je suis allé rencontrer celui qui en a été le rédacteur en chef, Julien Bisson.
Bonjour. America, c'est fini. On est à la radio. Pour qui n'a jamais tenu entre ses mains un exemplaire d'America et nous écoute quelque part dans le monde, décrivez-moi cette revue, votre revue.
America, c'est un magazine qui fait à peu près 200 pages avec un papier un peu épais. Donc on a voulu être proche de l'univers du livre. C'est un magazine indépendant, sans aucune publicité, et qui s'est proposé de raconter l'Amérique pendant 4 ans, pendant ce mandat assez particulier qui a été celui de Donald Trump, avec la voix des grands écrivains américains, quelques grands écrivains français, quelques grands écrivains d'ailleurs aussi venus d'autres régions du monde, et d'essayer de faire en sorte que ces écrivains soient les chroniqueurs de ce règne un peu singulier, un peu étonnant de l'Amérique, mais aussi de voir, à travers cette présidence de Donald Trump, quelles sont les grandes lignes de faille, les grandes lignes de fracture de la société américaine, en revenant sur son histoire, en revenant sur ses grandes œuvres culturelles, pour comprendre ce que ces grandes œuvres peuvent nous apprendre de cette société. C'était une envie d'arriver à mieux comprendre ce pays qu'on croit connaître parce qu'on est immergé dans sa culture, immergé dans les films, la musique, les séries qui nous viennent des États-Unis, mais dont on ne saisit pas toujours les divisions, les contrastes, les traits les plus complexes de son identité. Et donc voilà, c'est ce qu'on a voulu essayer de faire pour essayer de mieux comprendre ce qui se passait aux États-Unis et donc, par ricochet, dans le reste du monde.
La promesse initiale, le pacte avec le lecteur d'América, était que ce projet dure 4 ans, un destin intimement lié à Donald Trump. Si le président sortant avait été réélu, vous auriez été, j'imagine, bien embêté.
Oui, je pense qu'en tout cas, la question de savoir si on allait continuer se serait posée. Se serait posé, et c'est une question qu'on n'avait pas forcément envie de se poser, parce que on considère qu'on a voulu faire un récit, et qu'un récit, à un moment, c'est bien qu'il ait un début, un milieu et une fin, et qu'on ne voulait pas que cette fin soit trop lointaine. On n'essaye pas de faire, comme vous savez, comme dans les séries télévisées, la saison de trop. Donc, quand Joe Biden a été élu, j'étais moi à New York pendant cette fameuse semaine électorale, je peux vous dire qu'on a eu une forme de soulagement pour le pays, soulagement pour la planète, et puis soulagement aussi pour notre cas à nous, parce qu'on savait que l'aventure allait pouvoir se terminer, qu'on allait pouvoir mettre un point final quelques mois plus tard à notre récit.
Le premier numéro d'América est paru au printemps 2017. François Bunel, le directeur de la rédaction d'América, en parlait alors dans l'atelier des médias au micro d'Arnaud Contreras.
4 ans parce que c'est le temps du mandat de Donald Trump et que pour plein de raisons nous nous sommes dit que d'abord nous voulions faire un journal qui soit un collectif dont l'ambition est d'être un peu, vous savez, comme les mémorialistes d'une époque, mais sauf qu'on n'a pas le génie de Saint-Simon quand il brossait la cour du roi de France, et qu'on s'est dit, au lieu de se mettre à deux, Éric Fotorino et moi, on va se mettre à 100. Et on va faire appel, pendant toute la durée de ce règne, nous allons faire appel aux meilleurs écrivains. Les écrivains américains, les écrivains français, des écrivains aussi d'autres nationalités, puisque Roberto Saviano ou Ian McEwan devraient nous rejoindre bientôt, avec des grands papiers de reportage. Et pourquoi que 4 ans? D'une part, parce que c'est, on le pense, la durée normale d'un mandat. Ensuite, on verra bien. Peut-être qu'il sera reconduit. Donald Trump sera peut-être réélu, qui sait. Il sera peut-être empêché. Il sera peut-être lui-même démissionnaire. Tout est possible. Et puis, c'est ce que suggère Marc Duguin dans l'article qu'il nous a donné, la fiction qu'il nous a donnée, qui est une science-fiction. Il y aura peut-être quelqu'un pour appuyer sur la gâchette, comme c'est arrivé en 1963 à Dallas. Tout peut arriver avec Donald Trump. C'est la raison aussi pour laquelle on a eu envie de faire ce journal, qu'on n'aurait sans doute pas fait si Bernie Sanders ou Hillary Clinton avaient remporté l'élection, parce que Trump est un véritable personnage de roman, et que de manière totalement romanesque, c'est-à-dire déroutante et dangereuse, et parfois divertissante, les trois qualificatifs indispensables au roman, il va pendant 4 ans éternuer à la Maison-Blanche, et croyez-moi, c'est tout le reste du monde, de l'Afrique à l'Asie, en passant par la France, qui va s'enrhumer.
Trump est un véritable personnage de roman, déroutant, dangereux, divertissant. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas été déçu et que vous avez eu matière.
Oui, on n'a pas été déçu du tout. On anticipait le fait que ce mandat allait continuer à être à un moment de l'histoire qui n'aurait rien à voir avec ce qu'on avait connu auparavant. Il y a eu beaucoup de gens qui ont pensé qu'une fois élu, Donald Trump allait s'assagir, que la campagne électorale était une chose, que l'exercice du pouvoir en serait une autre, et que les adultes à Washington allaient pouvoir le maîtriser. En réalité, on a bien vu que pendant 4 ans, il a continué à éternuer, comme le disait si bien François Bunel. Il a éternué tous les jours et même jusque dans les dernières heures de son mandat. Et donc c'est cela qu'on a voulu raconter. Alors c'est drôle, François prévoyait qu'on serait 100, qu'on aurait 100 écrivains pour raconter ce mandat. On en a eu presque 200 tout au long de ces 4 ans. Et c'est vrai que ça a été un récit choral de ce grand roman de l'Amérique. Je pense qu'on a rarement pu réunir un tel portrait de famille de la littérature américaine. Et c'est ça aussi qui a été en effet une vraie satisfaction pour nous.
On peut en citer justement quelques-uns des grands écrivains qui sont intervenus, alors soit sous forme de reportages écrits que vous leur avez demandé, soit sous forme de grands entretiens. Toni Morrison, qui était dans le premier numéro, qui est d'ailleurs devenue la marraine d'América, mais aussi Paul Auster, James Ellroy, Bret Easton Ellis, Jonathan Franzen, John Carroll Oates, Margaret Atwood. Comment choisissiez-vous ces auteurs et comment les sollicitiez-vous?
On les choisissait sur différentes raisons. Il y avait un peu les monstres sacrés de la littérature américaine. Nous en avons cité le nom de plusieurs d'entre eux, dont on sentait qu'ils pouvaient nous donner les clés de compréhension de ce qui se passait. Parce que ils avaient une profondeur de vue, une expérience également de la politique américaine, de l'histoire américaine, une acuité du regard qui pouvait nous permettre de nous donner des clés. Alors chacun a sa façon d'ailleurs. Tous ces écrivains ne se ressemblent pas. Chacun a son histoire, chacun a ses opinions. Si vous mettez dans une même pièce Bret Easton Ellis et Paul Auster, vous verrez qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes opinions, mais que dans l'Amérique, on a voulu pouvoir accueillir une diversité d'opinions. On voulait voir aussi bien des démocrates que des républicains, aussi bien des gens qui pouvaient comprendre les électeurs de Donald Trump et d'autres s'y opposer totalement.
Vous ne vouliez pas en faire une revue anti-Trump ?
Non, on ne voulait pas en faire une revue anti-Trump. Notre projet n'était pas une revue anti-Trump, on voulait voir une revue qui puisse comprendre cette Amérique de Trump, qui puisse permettre de donner des clés à des lecteurs qui ne sont pas aux États-Unis ou qui ne connaissent pas bien le pays ou qui simplement s'interrogent sur ce qui s'y passe pour permettre d'arriver à appréhender un petit peu mieux les tensions, les déchirures politiques qu'il pouvait y avoir dans le pays. Et donc, en choisissant ces écrivains, on a essayé d'avoir à la fois justement ces regards de monstres sacrés et puis aussi des écrivains beaucoup plus méconnus, plus jeunes, venus de la diversité américaine. On a essayé d'avoir des auteurs qui viennent avec des origines très diverses, des auteurs qui viennent des 5 continents, qui puissent nous permettre aussi de comprendre ce qui se passe dans l'Amérique des années 2010-2020, vraiment, avec des gens comme Reed Bennett, comme Colson Whitehead, comme Celeste Ng, comme beaucoup d'auteurs différents qui vont nous donner aussi, par leur regard, par leur expérience de leur vie à eux, quelque chose qui peut nous permettre de voir ce qui se passe. Quelqu'un comme Gabino Iglesias, qui est un écrivain américano-mexicain et qui vit au Texas, qui nous raconte le trafic des femmes à la frontière mexicaine. Il y a quelque chose d'absolument passionnant et c'est quelque chose qu'il vit et qu'il expérimente dans sa vie quotidienne. Quand on demande aussi à David Joy de nous raconter l'Amérique des opiacés, il peut s'appuyer sur des expériences de ses amis, de sa famille, de gens qu'il a côtoyés et dont il peut voir les ravages de ces opiacés en Amérique. Et donc, on essaie d'avoir avec ces écrivains des regards très différents, parce que l'Amérique est un pays mosaïque, c'est un pays composite. Et donc, c'est en essayant d'avoir aussi la diversité de ces regards qu'on peut en avoir un regard qui embrasse la diversité de cette réalité.
Et il y avait aussi, d'une certaine façon, un prisme un petit peu français dans toute cette histoire, parce que bon, on sait que la littérature américaine marche en France et qu'il y a des auteurs même que vous aviez sollicités. Je pense notamment à Jim Harrison, qui sont plus connus en France qu'aux États-Unis, qui parfois même vendent plus en France qu'aux États-Unis. C'était important d'avoir ces deux pieds, d'avoir un pied aux États-Unis et aussi un pied en France, puisque America était publié en France.
Oui, et c'est d'ailleurs ce qui touchait beaucoup les écrivains américains qu'on a sollicités. C'est-à-dire qu'ils savent très bien, ces écrivains américains, qui sont souvent plus respectés, plus écoutés en France qu'ils ne sont dans leur propre pays. Beaucoup de ces écrivains, quand on les a contactés, nous ont expliqué qu'ils seraient très heureux de pouvoir s'exprimer dans l'Amérique, non parce qu'aux États-Unis, aucun canal ne leur a été offert. Aucune possibilité de s'exprimer sur un temps long qui puisse permettre de donner véritablement un discours construit, articulé, complexe. Et ils savaient aussi que il y a une relation entre la France et les États-Unis qui est une relation que le pays n'a avec très peu d'autres pays dans le monde. Qu'il y a un regard français sur les États-Unis qui les intéresse. C'est pas pour rien si Tocqueville est enseigné dans toutes les universités américaines, parce que Tocqueville a été, par son regard extérieur, quelqu'un qui a donné une meilleure compréhension de ce qui se jouait dans l'expérience démocratique américaine. Et donc, c'est aussi pour cela, par exemple, qu'America, aujourd'hui, il y a une déclinaison d'America qui est vendue aux États-Unis, un petit recueil, une anthologie, une trentaine de textes qui sont traduits en anglais et qui sont proposés aux États-Unis, parce que les Américains sont aussi curieux de savoir ce que les Français pensent d'eux. Donc, c'est ce dialogue entre Français et Américains qu'on a voulu aussi accueillir dans nos pages. Il y a des écrivains français qu'on a envoyés aux États-Unis pour faire quelques reportages. Et par ce dialogue, il y a quelque chose qui nous raconte l'Amérique, mais qui nous raconte quelque chose d'un peu plus large aussi, qui est comment les grandes questions qui traversent Les États-Unis sont aussi des questions qui se posent à nous tous. Les questions qui ont trait au racisme, les questions qui ont trait à l'histoire de l'esclavage, les questions qui ont trait au génocide des Amérindiens, les questions qui ont trait également à l'exploitation des plus pauvres, au ravage du capitalisme, à la destruction des espaces naturels. Toutes ces questions qui sont des questions structurantes pour les États-Unis sont aussi, par ricochet, des questions qui se posent à nous. Et donc, essayer de comprendre comment ces questions sont abordées dans ce pays, c'est aussi une certaine façon nous mettre en regard, nous mettre un miroir dans lequel on peut essayer de s'interroger et de se regarder.
Avant de poursuivre cet entretien, je vous propose d'écouter Mondo Blog Audio qui donne la parole aux blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Ben Lovua, Mondo Blogueur en République démocratique du Congo, a décortiqué le racisme aux États-Unis dans un billet intitulé « Les Noirs révulsés, l'Amérique esclavagiste est de retour ».
L'Amérique est révulsée. De nombreux internautes ont été choqués par une vidéo glaçante du meurtre de George Floyd. La scène durait 10 terribles minutes et a été filmée par une passante sur Facebook Live. Elle montre George Floyd, plaqué au sol sur le ventre par un policier qui l'immobilise avec un genou sur les coups, jusqu'au moment où il a succombé. Plusieurs voix s'élèvent pour réclamer des sanctions, dont les renvois des agents de la police qui se sont illustrés dans ces traitements dégradants. Un traitement qui a rappelé à certains les temps des esclaves enchaînés, des noirs lynchés ou encore des condamnés volontairement exhibés sur la voie publique aux États-Unis. La famille de George Floyd a dénoncé un usage excessif et inhumain de la force et accusé la police de racisme. Par ailleurs, le maire de la ville de Minneapolis a déclaré sur Twitter que les 4 agents de police impliqués dans la mort de George Floyd avaient été renvoyés. Par coïncidence, le prénom George renvoie à une autre épopée tragique où George Stinney Jr., d'origine africaine, fut la plus jeune personne à avoir été exécutée au XXe siècle aux États-Unis. Ce jeune noir n'avait que 14 ans au moment de son exécution sur une chaise électrique. 70 ans plus tard, son innocence a été officiellement reconnue par un juge de la Caroline du Sud. Et parfois, si un George n'est pas victime, il est oppresseur. En 2012, George Zimmerman, un garde bénévole, a tué un adolescent noir en Floride. Il a ensuite été acquitté par un jury populaire après un procès marqué par une polémique sur le racisme qui a enflammé les États-Unis. En outre, si le George n'est pas humain, il représente un territoire, la Géorgie. La mort d'Ahmaud Arbery, 25 ans, le 23 février 2020 dans cet État, est un autre scandale racial répugnant. En ce qui concerne les violences policières, il faut imposer le désarmement de la police. Il faut doter celle-ci d'armes non létales et multiplier les sanctions en cas de violence. Un récent rapport du Sentencing Project fait froid au dos. Il nous apprend qu'au pays de l'oncle Sam, le taux d'incarcération des Noirs est 6 fois plus élevé que celui des Blancs. Il y a urgence aux États-Unis et ailleurs à stopper cet engrenage infernal. Malgré l'arsenal juridique des USA interdisant l'esclavagisme, il existe toujours des discriminations. Il y a toujours un George Floyd qui crie « I can't breathe, je ne peux pas respirer ».
Mondoblog.org.
C'était le mondoblogueur congolais Ben Lovua, dont vous pouvez lire les billets sur son blog Le Libriste. Retrouvons maintenant mon invité Julien Bisson, qui pendant 4 ans a été le rédacteur en chef de la revue America. America, c'est 16 numéros et vous venez de citer certains des thèmes qui étaient à la une de certains numéros. Je vais en citer d'autres. La foi, les marges, les questions raciales, la guerre, l'Amérique indienne, l'Amérique sauvage, le rêve américain ou encore le sexe. Vous aviez anticipé un peu ce découpage et ces 16 thèmes parce qu'au final, j'ai l'impression que vous avez presque fait le tour.
Alors, étrangement, non. C'est-à-dire que on a créé America très rapidement, en quelques semaines. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore anticipé cette construction selon des grands thèmes et des grandes questions saillantes. Ça s'est imposé assez rapidement, dès le troisième, quatrième numéro. On a commencé à construire ces numéros autour de grands thèmes. On s'est rendu compte que c'était par l'approche de ces grands thèmes qu'on allait pouvoir essayer d'avoir une compréhension une analyse qui soit plus profonde de ces questions fondamentales. C'est-à-dire qu'on souhaitait qu'il n'y ait pas qu'un seul article sur la question de la foi, mais quand on fait un article, un numéro sur la foi, eh bien qu'on essaie d'aborder à la fois la question des évangélistes, la question des mormons, la question des Amish, la question aussi du développement de l'athéisme aux États-Unis, qui est encore très différent de l'athéisme français. La question de l'avortement et toutes ces questions qui peuvent se répondre les unes les autres et qu'on voulait réunir dans un seul et même numéro de façon à ce qu'on puisse avoir une image plus large et plus riche de ces interrogations. Donc on n'avait pas de découpage a priori. Il y a certains thèmes qui se sont imposés au fur et à mesure. Par exemple, on savait qu'on voulait à un moment aborder la question de la race aux États-Unis et j'ai découvert que les premiers esclaves américains étaient arrivés sur le sol américain en 1619. 1619, c'est une date qui n'est pas anodine, puisque c'est un an avant les Pères Pèlerins. C'est-à-dire les Pères Pèlerins, les fondateurs mythiques de l'Amérique, sont arrivés un an après les premiers esclaves. C'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Et donc on s'est dit que raconter par ce biais, par ce prisme de 400e anniversaire de l'esclavage, la question de la race en Amérique, en montrant qu'elle est, c'est le début fondamental de cette problématique américaine, de cette tragédie américaine. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est, en 2019, on a décidé qu'on allait faire ce numéro à ce moment-là. Donc voilà, il y a des choses qui se sont imposées par le mouvement MeToo nous a aussi poussé à faire ce grand numéro sur la question des femmes aux États-Unis. Les multiples tueries de masse en Amérique nous ont aussi amené à faire un numéro sur la violence, avec un grand texte de Stephen King sur la violence des armes. Donc voilà, ce sont des choses qui se sont imposées les unes après les autres. C'était pas prémédité, on n'est pas parti en disant on va faire 16 numéros et ce sera sur tous ces thèmes-là. Mais d'une certaine façon, elles se sont imposées d'eux-mêmes et au final, quand on regarde dans le rétroviseur, sur 16 numéros, on se rend compte qu'on a esquivé très peu de questions essentielles de l'identité américaine.
Le sous-titre d'America, c'est l'Amérique comme vous ne l'avez jamais lu. Alors vous venez de nous dire que, au final, c'est au bout de 3-4 numéros que vous avez réellement trouvé la recette, la formule pour que ça marche. Et en même temps, America, c'est, et ça va rester, la photographie d'une époque et l'idée d'en faire un beau livre.
Oui, on voulait que ce soit la photographie d'une époque. On voulait que les lecteurs puissent aient envie de les conserver.
Ça vieillisse dans une bibliothèque.
Oui, on voulait que ça ait la qualité d'un très beau livre, de façon à ce que ça puisse vieillir dans une bibliothèque, et que si dans 20 ans, vous retournez dans votre bibliothèque et que vous ressaisissiez d'un numéro d'America, eh bien que vous ayez là véritablement une photo de l'époque, une photo aussi de la littérature de cette époque-là. C'était aussi pour ça qu'on souhaitait inclure tous les grands écrivains américains dans cette aventure-là, parce que c'est une époque aussi qui est critique dans l'histoire de la littérature américaine. On a beaucoup de très grands écrivains qui ont aujourd'hui 70 ans, 80 ans, qui malheureusement vont bientôt disparaître. Certains nous ont quittés au cours de l'aventure américaine. Toni Morrison, Philip Roth, Tom Wolfe, voilà. Vous avez cité quasiment trois des plus grands écrivains américains de leur génération. C'est toute une génération de grands écrivains américains qui ont grandi dans l'immédiate après-guerre, qui est quasiment la dernière génération d'Américains qui a appris à lire, écrire, qui s'est passionné pour les livres sans avoir de télévision chez eux. Et donc, c'était aussi arriver à donner une voix, à mettre de là une place pour tous ces grands écrivains, parce que dans 20 ans, ce sera une autre génération qui sera là, avec d'autres codes, et c'est une génération qui a tout autant de talent que les précédents, mais c'est encore autre chose. Et on voulait pouvoir avoir cette aventure où ces grands monstres sacrés et ces nouvelles voix puissent cohabiter dans les mêmes pages.
Je vous propose de réécouter un autre extrait de François Bunel dans l'Atelier des médias au printemps 2017, quelques semaines après le lancement d'America.
Nous, c'est aussi un rapport au temps, se décentrer par rapport à un temps hyper court, par rapport à un temps hyper rapide de l'information. Il y a l'information, mais il y a la connaissance. Moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'écouter la radio, de lire les journaux pour être informé, et puis d'avoir accès à travers des revues, des magazines. Alors nous, c'est un truc bizarre, hein, on est entre la revue, le magazine, le MOOC, le livre. Mais on aime bien d'ailleurs ce côté hybride, totalement assumé, hybride, décentré, inattendu, là où on ne s'attend pas à se trouver. C'est un peu, moi, ce dont je rêvais comme exercice journalistique. Vous avez de la place, vous savez, les articles font 45 000 signes, 50 000 signes, 30 000 signes, 25 000, c'est-à-dire 8, 10, 15 pages, parfois vous en avez sur 3 pages. L'idée est vraiment de se dire, sont les écrivains qui vont nous raconter, avec leur sensibilité très différente, leur vision et ce qu'ils auront vu.
Justement, America a montré que l'écrit, le temps long, sont nécessaires, 20 pages parfois pour une histoire, 2 à 3 semaines sur le terrain. Et face à cela, eh bien, il y avait les tweets et sorties médiatiques de Trump qui avaient un effet tapis de bombe sur l'actualité. Votre revue allait donc totalement à contre-courant de l'accélération de l'information voulue par Donald Trump durant son mandat.
Oui, oui, c'est vrai. Il y a, vous savez, dans le journalisme, il y a deux grands luxes. Le premier luxe, c'est le temps. Le deuxième, c'est l'espace. Est-ce que vous aurez le temps d'enquêter et d'écrire? Et est-ce que vous aurez l'espace pour pouvoir le faire? Et c'est ce luxe qu'on a voulu donner aux écrivains. Dans ce dernier numéro, dans l'ultime numéro d'America, le numéro 16, on a un grand texte de Richard Russo, qui s'appelle Marriage Story. J'ai contacté Richard, je lui ai dit « Est-ce que tu as envie d'écrire un texte pour nous ?» Et il me dit « Oui, écoute, je suis tout à fait prêt à écrire un texte. » Et puis, quelques temps plus tard, il me dit « Mais écoute, j'ai écrit beaucoup trop long. Ce sera beaucoup trop long, vous ne pourrez pas le publier. » Et je dis mais si, c'est trop long, ça sera très bien. Et c'était un texte qui fait en effet 60-70 000 signes, ça veut dire que c'est un texte qui fait 26-28 pages dans notre journal, c'est quasiment la moitié d'un roman. Et en effet, vous ne pourrez difficilement trouver ce genre de texte ailleurs. Vous pourrez difficilement trouver ce genre de texte dans un quotidien ou dans un hebdomadaire. Nous, on a réussi à avoir, c'est la possibilité d'avoir l'espace nécessaire, de faire de la place. On a eu la même chose avec Philippe Claudel quand on lui a proposé d'écrire sur les Amish. Il nous a dit, mais il va falloir casser les murs du journal. On a dit, mais bien sûr, on casse les murs du journal. On fait de la place au texte parce qu'on veut que la distance soit utilisée par les écrivains. S'ils ont besoin de plus de mots pour raconter une réalité complexe, eh bien, on leur donne cette place-là. Et c'est vrai que ce temps long, ça nous a permis de ne surtout pas nous accrocher à l'actualité de Trump. Ça nous a permis de ne pouvoir nous dégager de ce tapis de bombe dont vous parliez, que pouvait être la communication de Trump pour réussir à prendre de la distance par rapport à l'actualité quasi politicienne de Donald Trump et d'arriver à utiliser cette distance pour pouvoir faire un récit beaucoup plus juste, beaucoup plus complexe, beaucoup plus authentique de l'Amérique. On était dans la communication de Donald Trump, et c'était l'ère de la post-vérité. Ben, on a essayé, nous, de retrouver la vérité, justement, à travers les mots de gens qui sont habituellement des gens qui utilisent la fiction, les écrivains. Ben, on a essayé de retrouver cette vérité de l'Amérique.
Et vous avez également essayé de vous projeter d'une certaine façon dans le dernier numéro dont l'idée était-elle aussi de raconter l'Amérique d'après Trump. Alors on voit notamment, il y a Colm McCann qui est un écrivain irlandais qui lui plonge dans ses souvenirs d'enfant du conflit nord-irlandais. Il entrevoit dans la situation politique actuelle aux États-Unis les germes d'une guerre civile.
Bah, il s'interroge sur cette question de la guerre civile. Vous savez, nous on n'est pas des prophètes. On n'a pas voulu, justement, dans ce dernier numéro, dire « voilà ce qui va se passer maintenant dans l'Amérique de Joe Biden ». On n'en sait rien. On n'en sait rien, c'est très difficile à savoir. Si bien, si l'actualité nous a montré quelque chose, c'est bien qu'il est illusoire de vouloir prédire le futur. Donc, non, on n'a pas voulu prédire le futur. On a voulu poser les questions à Colm McCann et à d'autres, de savoir quels sont les germes aujourd'hui, en effet, dans le terreau américain. Et si ces germes devaient éclore, qu'est-ce que ça pourrait donner? Donc il n'y a pas de prédiction. Il y a un état des lieux. Quelle est l'Amérique dont Joe Biden hérite? Quelle est l'Amérique que Joe Biden va devoir réconcilier? L'Amérique est aujourd'hui dans un état de division qu'elle n'a jamais connu depuis sans doute la guerre de sécession, ce qui ne veut pas dire qu'il va y avoir une guerre civile, mais en tout cas l'Amérique n'a jamais été aussi divisée. Donald Trump n'est d'ailleurs pas le seul responsable de ces divisions. Ce sont des divisions qui sont propres à beaucoup de pays, qui sont propres à l'état du débat politique dans nos civilisations, à l'état de la multiplication des bulles culturelles, à beaucoup d'éléments qui sont vraiment très complexes et qui ne sont pas uniquement imputables à Donald Trump. Et donc, on a aussi d'ailleurs pour ça qu'on a voulu faire un grand dossier sur les GAFA et montrer quel rôle vont pouvoir jouer les GAFA dans cette nouvelle Amérique. Donc non, on n'a pas voulu prédire le futur, mais en effet, on a voulu essayer de poser les questions qui vont être celles qui vont occuper l'Amérique dans les prochains mois.
Une dernière photographie, d'une certaine façon. America, c'est fini, je le disais en introduction, mais America se poursuit avec une newsletter diffusée chaque jour à 18h, une genre de revue de presse. Dites-nous l'intention derrière cette newsletter quotidienne.
Cette newsletter quotidienne, elle nous, On a voulu la créer parce que on voulait pouvoir permettre à des lecteurs qui n'ont pas toujours le temps d'aller sillonner toute la presse américaine et française et francophone, d'arriver à avoir accès à des éclairages, souvent sur des textes longs, qui vont être un petit peu mis en avant par cette newsletter de façon à avoir une pluralité de regards, une pluralité de regards sur la politique, sur les arts, la culture. C'est aussi une façon pour nous, justement, là pour le coup, d'être dans une forme de contraste avec ce qu'on propose dans la revue. C'est-à-dire cette fois-ci, mais on est dans le temps court, dans l'immédiat. Voilà, si vous voulez avoir une meilleure compréhension de l'Amérique et de ce qui s'y dit, de quels sont les débats qui sont actuellement en cours, et ben voilà ce qu'il fallait avoir lu aujourd'hui. Et donc on essaie de pouvoir proposer cela.
Vous écoutez toujours l'atelier des médias de RFI. Je suis avec Julien Bisson, rédacteur en chef de Feu, la revue America. Ouvrons maintenant une séquence de questions courtes, réponses courtes. Entre nous, Julien Bisson, êtes-vous soulagé que ce soit fini, America ?
Soulagé, c'est un grand mot. Nostalgique déjà, et plutôt désireux de continuer des nouveaux projets ensuite.
En quittant la Maison Blanche, Donald Trump a dit « Je vous reverrai dans 4 ans ». C'est une grosse perche tendue pour un America 2, ça non ?
Oui, vous savez, on a une série qui s'est de 4 saisons qui s'est terminée. Parfois, les séries reprennent. Donc, si on a quitté les kiosques quand Donald Trump a quitté la Maison Blanche, si jamais Donald Trump devait revenir à la Maison Blanche, eh bien, sans doute que nous reviendrions également.
Le message est reçu. Vous étiez parti en 2017 avec une liste de tous les écrivains avec qui vous aimeriez travailler dans la revue, et il y a peu de noms que vous n'avez pas réussi à cocher, ai-je lu. On veut des noms, justement.
Il y a quelques écrivains dont malheureusement qu'on n'a pas pu avoir. Alors on a essayé pendant très longtemps d'avoir un grand entretien avec Stephen King. On a toujours été en discussion, ça n'a jamais pu se faire et c'est on le regrette parce que je pense que c'est l'un des plus grands écrivains sur la société américaine avec les outils du fantastique et de l'horreur, mais c'est vraiment un grand écrivain de la société américaine. Et puis il y a quelques autres auteurs comme Donna Tartt par exemple, comme Denis Lien ou Michael Chabon qui auraient pu tout à fait participer à cette revue et puis le rendez-vous ne s'est jamais fait.
Si je vous dis qu'il faut sortir cette semaine un numéro exceptionnel d'America, quels écrivains allez-vous appeler immédiatement et dont vous êtes sûr qu'ils vont rédiger un texte à toute vitesse ?
Ah. À toute vitesse, je ne sais pas. Est-ce que des écrivains de très grande qualité capables de rédiger un texte formidable en très peu de temps ? Il y en a quelques-uns. Richard Powers, par exemple, qui est l'un des écrivains les plus intelligents, les plus précis, les plus subtils que je connaisse. Je pense que c'est vers quelqu'un comme cela que je me tournerai.
Y a-t-il une qualité que possèdent les écrivains et qui manque cruellement aux journalistes ?
Alors, je ne sais pas si c'est une qualité qu'ils ont ou si c'est quelque chose qu'ils n'ont pas. Je pense qu'ils n'ont pas le cuir que les journalistes peuvent avoir. C'est-à-dire qu'ils ont une sensibilité que, en tant que journaliste, on s'oblige souvent à ne pas avoir. Et c'est pour cette sensibilité qu'on leur demande des textes. Parce que, justement, ils ont une peau en moins. Pas une peau en plus, mais une peau en moins qui leur permet d'arriver à mieux ressentir les choses, à mieux ressentir les événements. Et c'est aussi pour cela qu'on a envie d'avoir leur regard.
Et que possèdent les journalistes dont les écrivains feraient bien de s'inspirer ?
Ah, ça c'est une très bonne question. Allez, si la seule chose qu'on pourrait leur demander de s'inspirer, c'est d'arriver à respecter une deadline.
Quelle est la question sur America que vous avez marre qu'on vous pose ?
Ah bah c'était la question, elle est répondue, puisque c'était la question, est-ce que vous allez continuer après le 16e numéro ? Donc voilà, ça y est, cette question est enfin répondue.
Fin de cette séquence, question courte, réponse courte. Parlons maintenant de l'économie d'une revue de qualité supérieure, sans publicité, comme America. Déjà, vous partez sur un beau succès, hein. Le mot est d'ailleurs dans l'éditorial du dernier numéro, un succès éditorial, mais aussi en termes de vente. 1,5 million d'exemplaires sur les 15 premiers numéros, ça fait quelques 33 000 exemplaires en moyenne par numéro, et là, je lisais ce matin que le dernier numéro est à lui tout seul d'ailleurs un énorme succès déjà après une semaine seulement.
Oui, on a vendu plus de 20 000 exemplaires dès la première semaine. Donc c'est un formidable succès pour ce dernier numéro qui avait connu un tirage un peu plus important, qui a été évidemment aidé par l'actualité, puisque nous avons publié ce dernier numéro le jour de l'investiture de Joe Biden. Donc on a été aidé par cela. Oui, c'est un très très grand succès, un succès qui nous a tous surpris. Je dois vraiment être sincère. Quand on a lancé l'America, on se demandait si on allait en vendre 5 000, 10 000 exemplaires par numéro, en se disant que ce serait déjà pas mal. Et en réalité, on a en vendu beaucoup plus, ce qui nous a permis aussi justement de pouvoir financer des grands reportages, de pouvoir financer l'achat d'illustrations auprès de grands illustrateurs, de pouvoir aller chercher des nouvelles inédites et exhumées de Cormac McCarthy, Salinger, Tennessee Williams et d'autres. Ça nous a donné la possibilité, les moyens de faire la revue dont on rêvait. Si ça n'avait pas été un succès, ça aurait certainement été plus difficile. On aurait dû revoir à la baisse nos ambitions. Et là, il y a eu une rencontre entre les attentes du lectorat et les envies de la rédaction. Et c'est ça qui a été vraiment les ingrédients de ce succès-là. Donc oui, non, c'est un très beau succès éditorial, c'est un vrai succès d'estime également. Donc on en est ravis. Et puis il y a vraiment eu une confiance qui s'est installée au fil des numéros, c'est-à-dire que on n'est jamais descendu en dessous de 33, 35 000 exemplaires par numéro. On est parfois monté un petit peu plus sur certains sujets qui fascinaient davantage les lecteurs, comme celui sur l'Amérique indienne, par exemple. Mais il y a eu cet effet de collection, cet effet d'entraînement qui fait que les lecteurs attendaient les numéros les uns après les autres, peut-être sachant également qu'il y aurait une fin. Ça les encourageait encore plus à attendre parce qu'il y a la conscience de la rareté. Mais en tout cas, ça a été une aventure qui, du début à la fin, a été formidable de ce point de vue-là.
Les numéros d'Américains, on pouvait les trouver en kiosque et en librairie. Et donc maintenant, l'idée, c'est qu'ils terminent en bibliothèque. Vous avez gagné de l'argent, on peut le dire, avec America. Qu'allez-vous faire de ce trésor de guerre ?
Alors, je ne sais pas s'il y a un grand trésor de guerre, mais oui, c'est une revue qui était profitable. Et heureusement, parce que si, quand on fait une revue qui rencontre un tel succès, on devait perdre de l'argent, ce serait malheureusement très inquiétant pour la presse. J'ai d'autres inquiétudes pour la presse, mais heureusement, quand on a un tel succès, elle est profitable. Aujourd'hui, on est dans une forme de réflexion sur ce que nous allons pouvoir essayer d'imaginer pour l'avenir. On n'a pas de projet secret dans un tiroir, on n'a pas quelque chose qui va sortir dans 2 mois et dont on ne dit rien pour l'instant. On est dans une période de réflexion, d'essayer de comprendre quelle est la bonne idée, mais aussi la bonne énergie. Donc pour faire naître un journal, il faut justement un élan. Quand on a créé America, on l'a créé en quelques semaines, on n'a pas fait de plan marketing, on n'a pas fait de numéro zéro. On s'est lancé à un moment, très rapidement, parce qu'on avait envie de le faire. Et on est dans cette même interrogation, cette même attente aujourd'hui pour un prochain projet. Voilà, d'être dans la bonne énergie, la bonne idée, le bon élan pour pouvoir se lancer.
Et de conserver cette communauté également de lecteurs qui s'est créée, qui est fidèle, qui envoie énormément de messages sur les réseaux sociaux, sur votre page Facebook, sur Instagram, de gens qui en fait sont dans l'expectative, qui attendent un peu la suite.
Oui, on sait qu'ils nous attendent et on veut surtout pas les décevoir. Voilà, on veut pas aller prendre la première idée qui va venir et qui se révélerait décevante pour eux et pour nous. Et puis, on veut pouvoir parler à cette communauté, mais aussi pouvoir parler à des communautés plus larges aussi. C'est un très grand succès éditorial pour une revue, mais il faut savoir aussi rester modeste. On n'a pas des millions de lecteurs. Et là-dessus, on a aussi une réflexion qui est comment réussir à apporter à un lectorat le plus large possible des produits éditoriaux de qualité, des textes de qualité, des textes longs, des textes complexes. On veut essayer de réfléchir à savoir comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à toucher une population plus large encore. Vous savez, il y a une anecdote qui m'a toujours marqué dans l'histoire de la presse et que je conserve toujours. C'est une anecdote racontée par Raymond Aron, le philosophe Raymond Aron, qui à un moment dirigeait la revue Combat et décide d'arrêter Combat. Et quelqu'un lui demande « Mais pourquoi est-ce que vous arrêtez Combat ? Tout le monde lit Combat. » Et Raymond Aron lui répond « Oui, mais tout le monde, c'est 30 000 personnes. » Et donc, il faut savoir aussi être modeste. C'est, très certainement, en fait, dans notre cercle, tout le monde adore America. Mais il faut pouvoir aller parler à un lectorat encore plus large pour qui une revue papier, c'est encore parfois un médium qui peut effrayer. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à toucher encore plus large ?
Je ne l'ai pas dit, mais vous êtes aussi rédacteur en chef du 1, qui est un hebdomadaire de qualité, qui lui aussi joue sur le temps long et qui a donc des convictions. Et surtout, nous sommes dans les locaux ici du 1, America, Zadig, Légende aussi. C'est une équipe, une machine qui est bien huilée et qui croit fondamentalement au temps long, au papier.
Oui, bien sûr. Au temps long, au papier, à la qualité des textes, surtout. Vous savez, les textes, ils peuvent exister sur papier, ils ont une existence sur papier qui est plus forte, pour plein de raisons, et d'ailleurs des raisons qui sont même des raisons neurologiques. Mais les textes peuvent exister sous d'autres formats. Le papier est intéressant parce qu'il permet d'avoir un objet de lecture. Et il permet de conserver ce qu'on a un peu perdu avec le numérique, qui est le parcours de lecture. Quand vous ouvrez le 1 ou quand vous ouvrez America, on a mis les articles dans un certain ordre, et ce n'est pas innocent. C'est qu'on a considéré, on a pensé ce produit avec un parcours de lecture qui va vous permettre, quand on fait un grand dossier sur la race ou sur la foi, par exemple, d'avoir une progression dans votre lecture et dans votre compréhension du sujet. Et donc le papier permet cela. Le papier permet aussi, tout simplement, d'avoir aussi une qualité artistique qui est très forte. Sur America, on a une directrice artistique qui s'appelle Sarah Kahn, qui a fait un travail formidable pendant 16 ans, qui a réussi à mobiliser les meilleurs illustrateurs de la planète. Et on n'aurait certainement pas réussi à transmettre cette qualité artistique-là si on avait été une revue numérique qui se serait simplement contentée de proposer des textes sur un petit écran de téléphone. Donc on a encore cette conviction que le papier sert le texte, que le papier peut permettre d'arriver à mettre en valeur le texte, les idées, et que tout simplement ce papier soit aussi procure un plaisir, un simple plaisir de le toucher, un plaisir de lecture. C'est-à-dire que moi, je pense que beaucoup de grands lecteurs, on préfère lire un texte quand il est écrit sur un papier que sur un écran. Et puis aussi ce plaisir de tout simplement d'apprécier une belle reproduction d'images, de photos, d'illustrations. Ce sont autant d'éléments dont on pense qu'ils font les grands atouts du papier. Ça ne veut pas dire que c'est l'alpha et l'oméga de la presse, encore une fois. Mais oui, on croit encore à cela. Et en effet, on croit à ce temps long, on croit à cette idée qu'il y a, dans une période où tout s'accélère, y compris l'information, la possibilité d'un temps de pause qui est celui de l'information à travers de grands textes.
L'atelier des médias.
L'aventure de la revue America nous était racontée par Julien Bisson, qui en a été le rédacteur en chef pendant ses 4 ans d'existence. Un entretien réalisé jeudi 28 janvier dans les locaux de l'hebdomadaire Le 1 et d'America à Paris. Pour en savoir plus et vous procurer les numéros de cette revue atypique, ça se passe sur america-mag.com. C'est la fin de cette émission, disponible à l'écoute sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Castbox ou encore Apple Podcast. Si vous aimez l'atelier des médias de RFI, donnez-nous 5 étoiles sur ces applications d'écoute, ça nous permettra d'être visibles et donc encore plus écoutés. Écrivez-nous via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. Merci à Simon Decreuse qui a réalisé comme chaque semaine cette émission, ainsi qu'à Pauline Linard-Casanave qui m'a aidé à préparer cette émission et à piloter Mondoblog Audio. Rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.